RCF. La Bible a plusieurs voix. Aujourd'hui, vous entendrez les voix de
Michel Quintric,
Malou Lebars,
Claude Chabalin,
Pierre Chamarbois. Bienvenue à la table de la parole. Aujourd'hui, notre Bible est ouverte au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Lors d'une précédente émission, nous avions commenté ce qu'on appelle l'épisode de la Pentecôte. Et nous allons y revenir un petit peu pour bien positionner les choses que nous avions évoquées. Et puis ensuite, nous aborderons tout à l'heure le discours de Pierre, en effet, après la Pentecôte, où ça fait partie de la Pentecôte, on pourrait dire, Pierre va prendre longuement la parole en s'adressant aux hommes de Judée, aux juifs qui sont là, soit juifs natifs de Jérusalem, soit résidents à Jérusalem et venant du monde entier. Alors lors de la Pentecôte, il s'est passé un événement très très fort, alors que étaient rassemblés un certain nombre de personnes, probablement 120 personnes d'après ce qu'il y avait avant, au même endroit, il y a eu un grand bruit, un grand fracas, comme un violent coup de vent. La maison dans laquelle ils se trouvent en est remplie et des langues de feu apparurent, se partageant sur chacun d'eux. Et il nous a été dit qu'ils se mirent à parler des langues autrement. Souvent, on traduit par « parler d'autres langues ». Mais nous avions vu qu'en étant plus proche du texte grec et en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, ils se mirent à parler autrement. Et à ce moment-là, dehors, il y a des gens qui sont là d'originaire de tas de pays et se rassemblent en foule. Et je cite « ils furent en plein désarroi, car chacun les entendait dans son propre dialecte. » Et un petit peu plus loin, déconcerté, émerveillé, il disait « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte ?» Et alors, nous avions dit qu'il n'était pas question que les apôtres et puis ceux qui étaient avec eux se mettent à parler des langues étrangères, c'était pas ça qu'il fallait comprendre, mais que quelque chose pouvait s'entendre dans chacune des langues propres aux auditeurs. Claude.
Oui, oui. Moi je crois que c'est assez intéressant de relire ça avec un regard Babel. Dans la mesure où il y a eu la porte qui a fait l'interruption entre cette volonté unanimiste de toute l'humanité de parler une seule langue et de monter. Et la Babel, la porte qui est mise, c'est la séparation entre...
À Babel, Dieu disperse l'humanité qui parlait une seule langue.
Et ils ne s'entendent plus.
Et ils ne s'entendent plus.
Voilà.
Et là, alors ce qui se passe, c'est qu'ils s'entendent de nouveau,
ouais.
Mais non pas parce qu'ils ont la même langue, mais chacun dans son dialecte entend quelque chose.
Entend ce qui est au-delà de cette porte que j'allais dire, les hommes ne pouvaient pas franchir. C'est comme si on nous disait que Dieu se met à parler, mais de manière intelligible pour chacun dans sa langue. Et donc il y a une inversion intéressante entre Babel ou un accomplissement, comme disent certains, à la Pentecôte ce qui a déjà été entrepris à Babel.
La Pentecôte n'annule pas Babel par un espéranto, une langue, un dialecte universel qui remplacerait les dialectes locaux, mais chacun dans son dialecte entend la même chose. peut entendre la même chose. En fait, pas sur tous les sujets, parce qu'il faut quand même citer un petit peu plus loin un verset qui nous dit qu'ils entendaient les merveilles de Dieu. Ils n'entendaient pas forcément la langue quotidienne, mais en ce qui concerne les merveilles de Dieu, cela s'entend désormais à la Pentecôte dans chaque langue.
Toutes les langues, oui.
Et pas simplement dans chaque langue. On nous parle ici, chacun les entend dans son propre dialecte de naissance. Mmh. Il y a une insistance sur le fait que ça touche à la racine identitaire de chacun.
Oui.
Donc ça va relativement profond chez chaque personne. Mmh. C'est cette entente des merveilles de Dieu.
Donc les dialectes séparent d'une certaine manière, parce que chacun est né quelque part, chacun grandit dans son dialecte, mais il y a comme...
Une autre langue.
Alors une autre langue, alors c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on emploie le mot langue un peu n'importe comment. Mmh. Nous avons tous un dialecte, par exemple là, à la radio, nous utilisons le dialecte français, franco-breton disons, avec les bretonismes qui nous viennent de temps en temps. Voilà, ça c'est un dialecte ancré quelque part, mais... Dans ce dialecte peut s'entendre quelque chose qui est la même chose qu'un Chinois ou un Africain pourrait entendre dans sa propre langue.
Ce que je trouve intéressant ici, c'est que donc le récit de la Pentecôte décrit l'expérience que vivent tous ces gens là réunis à Jérusalem, l'expérience qu'ils ont d'entendre dire les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, hein, donc par ceux-là là qui sont là les apôtres, et c'est donc sur cette base là que le discours de Pierre après va s'installer en quelque sorte en disant que ça fait la révélation dans leur expérience de vivre ça, qu'entendre des hommes parler dans leur langue les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue si on veut. Et c'est Pierre va pouvoir à partir de là dire bah, que ça c'est la révélation de Jésus-Christ qui est à l'origine de ce qui se passe là pour eux quoi. Je trouve que c'est l'assise sur laquelle il peut parler de Jésus-Christ ensuite.
Entendre aussi parler dans leur propre langue identitaire va créer quelque chose parce qu'ensuite ils se parlent les uns aux autres, ils se disent les uns aux autres et donc ça crée du lien indépendamment des barrières dialectales.
Oui, et en tout cas ils se comprennent entre eux.
Oui. Oui.
Alors on pourrait dire, il faut peut-être pas rester uniquement sur la question de la langue comme système linguistique, on pourrait dire aussi ça s'entend dans toutes les cultures, hein, parce que la langue ça peut être au sens très large, et donc dans toutes les cultures on peut entendre les merveilles de Dieu, chacune à sa manière, mais sur ce registre on peut se parler. Et on dit, tiens, nous entendons la même chose. Alors, la foule qui est là se retrouve un petit peu déconcertée. Là, je lis les versets 12 du chapitre 2. Ils étaient tous déconcertés. Dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres. Mais qu'est-ce que cela veut être ? D'autres s'esclaffaient ou se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux.
Oui, c'est vrai, je trouve ça assez intéressant, cette distinction. Ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y en a qui s'interrogent et d'autres qui ont déjà résolu le problème en disant ils sont bourrés, quoi.
Oui. Hein. Oui, oui. Donc ça donne deux catégories, hein. C'est ceux qui restent sur une question, qui sans doute entendront le discours de Pierre de manière particulièrement intéressée, et ceux qui ont conclu. Ils sont conclus parce qu'ils sont pleins. Ils sont pleins de leur savoir, de leur explication, enfin, etc.
Et même dans leur, je dirais, interprétation qu'ils font, ils sont pleins. Si on ne met pas de complément d'objet direct, on est un peu coincé parce qu'ici, ils disent qu'ils sont pleins de vin doux. Mais c'est vrai, les disciples sont pleins. Mais pas de vin doux, mais d'Esprit Saint.
Oui, on va voir ça.
C'est pas tout à fait pareil.
Et le vin doux amenant le délire, et on va voir dans le discours de Pierre que ce qui peut être entendu comme un délire, en fait, est une parole prophétique. Et ben, je vous propose d'écouter le début du discours de Pierre, parce qu'il est assez long, hein, il fait tout le chapitre 2, nous allons pas le lire entièrement maintenant. En gros, il est divisé en trois parties qui sont parfaitement repérables, puisque tout au début, il va s'adresser à ceux qui écoute en disant « homme de Judée », puis à un autre moment il va dire « homme israélite » et enfin il terminera par « homme frère ». C'est bien sûr les mêmes qui sont là comme auditeurs, mais les dénominations suggèrent une progression dans son discours. Alors nous allons nous intéresser uniquement à cette première partie du discours, du verset 14 au verset 21.
Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les onze. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9h du matin. Mais il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël. » Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et glorieux jour, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Voilà, pour se repérer, Pierre commence son discours par une petite introduction en disant ben « Non, l'interprétation d'ivresse n'est pas correcte, il la refuse. » Et il se met à citer le prophète Joël et tout ce qu'on a lu, c'est la citation du prophète Joël. Hein, ceux qui ont la Bible sous les yeux, vous verrez, c'est en italique. Cette citation n'est pas suivie d'un commentaire, c'est du Joël pratiquement pur, pas tout à fait, parce qu'on verra qu'il y a des petits changements par rapport au prophète Joël. Hein, prophète, c'est un prophète Joël, hein, qui c'est pas exactement du mot à mot, et donc les petites variantes sont toujours très significatives. Mais globalement, Pierre va pas commenter la citation. C'est le fait de citer Joël dans cette situation-là devrait sauter aux yeux ou aux oreilles des personnes, le lien avec la Pentecôte.
D'une certaine manière, la citation de Joël trouve ici son accomplissement.
Voilà, c'est ça. Et donc, il suffit de rappeler ce qu'a dit Joël pour comprendre ce qui est en jeu. Alors, je vous propose de revenir quand même au verset 14 qui nous décrit comment Pierre va prendre la parole. Et là, c'est assez intéressant d'être un petit peu en mot à mot. Hein. Nous avons entendu tout à l'heure avec Malou, alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les onze et s'exprima en ces termes. En mot à mot, ça donnerait Pierre se mit debout, Pierre se leva avec les onze, il éleva la voix et il éleva sa voix et il commença à s'exprimer. Il s'exprima. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui se lève. Lui, il se lève physiquement et lui-même va élever la voix. Alors là, la voix, on l'a déjà rencontrée, c'est ce qu'ont entendu lors de la Pentecôte en tant que telle, les personnes qui se trouvaient dehors. Ils ont entendu, sortant de la maison où se trouvaient les 120 qui ont reçu l'Esprit-Saint, une voix qui venait du ciel. Là, c'est encore avec cette voix-là, ce parler autrement que nous avions dit, ce parler universel, audible dans toutes les cultures, qu'il va prendre la parole.
Oui, effectivement, le terme voix, on pourrait mettre presque du son, tout simplement. Voilà. Le problème, c'est que les sons, il faut que ce soit compréhensible, et d'où peut-être le verbe après de s'exprimer, qui est mis comme si ça se passait en deux temps.
Oui, c'est ça. Il y a les deux aspects. Hein. On pourrait dire que ce qu'il dit, c'est emprunt d'une voix qui, elle, vient de sans doute plus loin que lui-même.
Et l'expression, elle est intéressante aussi. C'est Pierre avec les onze, éleva la voix. Donc, ouais. On pourrait dire, on a déjà souligné ça, que le mot douze ne figure presque plus jamais, mais c'est les onze qui sont désormais. Mais c'est comme si c'était d'une seule voix Pierre avec oui. les onze éleva la voix. Donc il y a quelque chose qui va sortir, émaner de ce groupe de Pierre
Alors,
avec les
onze. C'est vrai qu'ils ne parlent pas tous en même temps, mais ils parlent vraiment au nom des onze. Et non pas au nom des 120. Enfin, là, il y a quelque chose de type de son statut apostolique, hein, d'apôtre.
Non, mais, qui est et la double, le double verbe élevé, c'est finalement c'est lui et sa voix qui s'élève. Il y a quelque chose qui vient d'en haut, dans la voix de Pierre, et qui s'entend comme venant d'en haut, d'une certaine manière.
Oui. Alors le verset 15, non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez, nous ne sommes en effet qu'à 9h du matin, mais il s'agit de ce qu'a dit le prophète Joël. Donc là, il récuse l'interprétation d'ivresse par l'heure. Ben, c'est que la troisième heure, en mot à mot, il n'est que 9h du matin. Donc là, c'est peu probable qu'il soit ivre. Alors, on voit bien que ça se passe en Palestine, hein. Peut-être dans d'autres régions du monde, en Bretagne, je ne sais pas si on pourrait appliquer exactement ce
critère. Moi, je trouve ça très, très savoureux, c'est valable partout, ça, que le matin, on peut encore à peu près être frais, mais après, ça se corse.
Alors, je mettrais un tout petit quelque chose, on est un matin. On est un matin, c'est-à-dire... on pourrait dire au début d'une nouvelle journée. Ça n'avait pas été précisé, on ne savait pas quand ça s'était passé, ce phénomène de la Pentecôte, mais là, on apprend que c'est quand même le matin.
Et si on fait attention, on peut dire aussi que ce n'est pas la première heure, que c'est la troisième heure.
Oui,
on peut continuer à faire des comparaisons avec l'origine des choses.
Alors lesquels? Vous pensez à quoi?
Ah ben non, si c'est la première heure, que ça vient d'en haut, oui. c'est un commencement absolu. Quoi.
Absolue,
parce
oui.
que là, on n'est pas dans le commencement absolu, on est dans ce qui est reçu tout à fait fraîchement. Quoi.
Oui, on pourrait même dire éventuellement, mais ça c'est tout à fait nous qui le rajoutons, que la Pentecôte a eu lieu peut-être à la première heure et que c'est 2 heures plus tard, après tout ce qui s'est passé, que Pierre prend la parole. En tout cas, on est dans un nouveau jour. Et on va voir dans la citation de Joël, il va être question d'un nouveau jour.
C'est intéressant aussi de remarquer que quand il s'adresse, il dit « Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem », il prend un groupe de personnes. Et on verra plus loin qu'il prendra un autre groupe. Il y aura une autre désignation oui. des gens à qui il s'adresse.
Donc il y a les Judéens qui sont nés en Judée, et puis il y a tous les autres qui ont bénéficié aussi de cette expérience
dont il a été fait mention
de venant d'autres
cultures.
Donc c'est pas seulement les étrangers. Alors que dans le récit de la Pentecôte, ceux qui avaient entendu ce qui s'était passé dans la maison étaient ceux qui résidaient à Jérusalem, mais qui venaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Là, on intègre en plus, les Judéens d'origine.
Alors ce qui est intéressant aussi, ce qu'il leur demande, c'est de comprendre ce qui se passe.
Oui.
Comprenez bien ceci. Ramène bien à, disons, les signes dont ils perçoivent et sur lesquels certains d'entre eux se posent des questions.
Voilà. Alors,
et on leur demande aussi de prêter l'oreille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à entendre.
Oui. Et donc là, ce que nous avions dit, c'est que ce quelque chose à entendre, c'est pas forcément dans le dialecte, c'est propre à leur dialecte, mais cette nouvelle langue un petit peu universelle
qui vient d'en haut.
Qui vient de là. Et donc, comprenez bien ce qui se passe, on pourrait dire presque comprenez pourquoi vous comprenez. Puisque ils se comprennent au-delà des différences culturelles. Pourquoi vous comprenez ?
C'est pas d'ailleurs le verbe comprendre qui est employé, parce qu'on pourrait se dire s'il s'agit de faire une explication des choses pour que il faut que ce soit connu de vous ce qui s'est passé là, ce qui s'est joué. Donc cette connaissance là, elle va être en quelque sorte d'une nature bien plus profonde, quoi. C'est pas simplement une compréhension intellectuelle de ce qui
c'est pas un savoir, c'est quelque chose qui touche au corps quelque part.
Oui. À quoi ça rime, hein, c'est quelque chose qui est là. Alors je vous propose, avant d'entrer directement dans la citation du prophète Joël, d'une interruption musicale.
Thank you.
Vous êtes sur RCF et nous sommes dans l'émission La Bible à plusieurs voix. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et nous sommes en train d'aborder la citation que Pierre fait du prophète Joël. « Il arriva dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Donc ça c'est le verset 17 et il a une certaine unité. Je vous propose tout de suite d'entendre le verset 18 qui est comme un écho, une espèce de transformation de ce qui vient se dire. « Assurément !» Sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils seront prophètes. Alors, on voit bien qu'entre ces deux versets, il y a une parenté, mais il y a aussi une transformation.
Il y a une transformation et il y a une transformation à deux niveaux. Un premier niveau, c'est que Pierre, en citant Joël, interprète en même temps, parce qu'il rajoute quelques petits détails au long du parcours. Et on passe aussi dans le texte, le deuxième niveau, c'est vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, et tout ça, on passe ensuite à serviteurs, servantes.
Oui, mes serviteurs et mes servantes.
Ça veut dire que les vieillards, eh bien, et les jeunes gens ont, d'une certaine manière, disparu comme catégorie sociale. Il ne reste plus que fils et filles, mais vus sous l'angle de serviteurs, servantes.
Oui.
Oui, plutôt que catégorie sociale, je pense que ce qui est en jeu là, c'est les hommes et les femmes inscrits dans une génération, quoi, une génération sexuée avec des hommes et des femmes. C'est comme si la chronologie humaine s'efface entre la première partie et la seconde, quoi, parce qu'il n'y a plus que mes serviteurs et mes servantes.
Voilà. D'ailleurs, c'est dit en fait dès le début du verset 17, il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Alors ça, dans les derniers jours, dit Dieu, ça s'est rajouté par rapport à Joël, mais c'est assez significatif. On se situe dans les derniers jours. Et on va voir qu'à la fin de la citation, il est question du grand et glorieux jour. À ce moment-là, on ne sera même plus dans les derniers jours, ce sera le jour ultime, le jour du Seigneur. Alors, effectivement, dans ces derniers jours, tout ce qui est de l'ordre de la génération, du temps, le fait d'avoir des fils et des filles, et qu'il y a des jeunes et puis des plus anciens, tout ça s'efface pour une seule vision, une seule catégorie qui est mes serviteurs et mes servantes, mais c'est serviteurs et servantes de Dieu.
Oui, et puis l'autre aspect de la citation aussi, ceux qui ont le texte sous les yeux le voient, parce qu'il y a une typographie différente, dans les derniers jours, ils seront prophètes. D'une certaine manière, on est en train de nous dire que mes serviteurs, ce sont ceux-là qui sont prophètes dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu figure du temps à venir.
Oui, alors entre ce qui est de l'ordre du temps et ce qui n'est pas de l'ordre du temps, reste deux choses, c'est la différenciation masculin-féminin. Hein, fils-fille, par exemple, se retrouve dans serviteur et servante. Et c'est le fait qu'il soit prophète, puisque déjà on nous a dit vos fils et vos filles seront prophètes, et on redit à propos des serviteurs et des servantes, ils seront prophètes.
Donc, Pierre, ça,
c'est ce qui est stable. Et par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'âge, de la génération, tout ça, il y a comme un effacement du temps. Il se fait. Le temps ne compte plus dans son déroulement chronologique.
Oui, ça donne bien l'impression que c'est maintenant, dans l'aujourd'hui, qu'il y a quelque chose à entendre et que c'est décisif.
Oui. Ce à quoi vous avez assisté, c'est carrément la sortie du temps de l'attente. Hein, nous sommes là dans le temps de l'accomplissement. Alors il y a quand même cette belle phrase « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Sur toute chair, on se dit « mais ça va même au-delà de l'humain ». Enfin, qu'est-ce que c'est que la chair ? Voilà une question difficile. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tout ce qui est vivant, tout ce qui... Après, on parle seulement de fils, filles, jeunes gens, etc. Mais là, il y a quelque chose qui apparemment est plus large. Hein, et c'est quelque chose qui se répand. Ça ne remplit pas, d'ailleurs, au sens strict du terme, hein, je ne pense pas. C'est se répandre. Hein. Comme un souffle, l'esprit c'est le souffle hein, qui passe sur toute chair.
C'est un peu la création nouvelle qui est annoncée. Saint Paul reprendra ça dans ses épîtres aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais on retrouve aussi pour les serviteurs et les servantes la même expression, je répandrai de mon esprit.
Voilà.
Sur les serviteurs et servantes, comme si toute chair devenait serviteur et servante.
Oui, c'est ça. En fait, tout devient... oui, dans un rapport de service avec Dieu. Alors, les faits, c'est qu'il y a des prodiges là-haut dans le ciel, des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se change en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Donc là, nous n'avons plus qu'une minute pour commenter ça, mais bon, on y reviendra sans doute un petit peu la prochaine fois. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, moi je disais, j'entends en écho ce que vous venez de dire, le fait que les signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, une colonne de nuée, c'est finalement des choses qu'on retrouve à travers toute l'histoire biblique, oui. Avec la différence que pour ce qui est du soleil, qui était donné dès le chapitre premier comme les repères stables, ils sont en train de perdre leur stabilité ici.
Oui, le soleil ne joue plus son rôle, il devient ténèbre.
Oui, je pense qu'on peut dire que toute chair qui parle dans l'esprit fait l'expérience que tout ce sur quoi l'univers, le cosmos pouvait tenir, tout ça, ça part en miettes en quelque sorte. C'est pas ça les points de repère, c'est pas ça le sens et la signification de la vie. Elle est ailleurs et elle sera dite dans le nom, le fondement, ce sera le nom que Pierre va invoquer, le nom du Christ.